Bonjour et bienvenue à notre deuxième conférence KS. Merci à Stéphane Audouin-Rouzeau de bien vouloir la prononcer. Dans cette période où on commémore les massacres de la Grande Guerre, eh bien on s'aperçoit que le temps passe et que d'autres massacres contemporains peuvent aussi être examinés, analysés et en comprendre les raisons. Merci à Stéphane de nous proposer ces analyses.
Merci donc à André Grelon, merci au KES pour cette invitation qui m'honore. Merci surtout pour votre présence assez nombreuse, plus nombreuse que prévu sans doute, en raison de l'écho qu'a eu au sein de l'école la protestation lancée sur TLM et qui portait sur l'invitation, à mes yeux, scandaleuse. Donc l'invitation à la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, donc l'invitation de Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Élysée lors de la période du génocide des Tutsis rwandais, et l'un des principaux acteurs français de cette catastrophe. Je remercie aussi bien sûr la section de l'école, la section de la Ligue des droits de l'homme, de son soutien et les nombreux collègues qui sont ici, de leur soutien, par leur présence, mais de leur soutien aussi sur TLM. J'avais en fait prévu, à la demande d'André Grelon, cette petite conférence assez brève avant l'incident provoqué par cette invitation. Les deux agendas se sont en quelque sorte percutés et du coup, évidemment, cette conférence prend une signification un peu différente. Je vais essayer de la faire assez brève pour pouvoir laisser un peu de temps à vos questions. Alors, le génocide des Tutsis rwandais est le dernier génocide du XXe siècle, un génocide indiscutable, tout d'abord, dont la radicalité, tout comme la vitesse d'exécution, sont extrêmement frappantes. Je le résume en quelques phrases pour ceux qui ne s'en sont pas forcément familiers. Le massacre commence à Kigali, en fait, dès le 6 avril au soir, lorsque s'est répandue la nouvelle de l'attentat perpétré contre l'avion du président Habyarimana. Le massacre s'étend ensuite à grande vitesse dans la journée du lendemain, 7 avril 1994, avant de se généraliser sous la responsabilité du gouvernement Hutu Power, formé les 8 et 9 avril, avant de s'étendre, de se généraliser à la quasi-totalité du pays. Et jusqu'à la fin du mois de juin, la communauté internationale n'intervient pas, sinon pour exfiltrer les seuls ressortissants occidentaux, et elle se garde bien de prononcer le mot de génocide. Le secrétaire général de l'ONU ne prononce ce mot que le 31 mai dans un rapport officiel, mais le 31 mai, la plus grande partie, la très grande majorité des victimes étaient déjà tombées. Le pire est que cette communauté internationale a très tôt retiré l'essentiel des forces de l'ONU présentes sur place dans le cadre de la MINUA, et le 22 juin seulement, la résolution 929 du Conseil de sécurité des Nations Unies permet, sous la houlette de la France, le déclenchement de l'opération turquoise afin, je cite, de mettre fin au massacre partout où cela sera possible, éventuellement en utilisant la force. Point, fin de citation. On reviendra dans un instant sur cette opération turquoise très controversée. Sur le terrain, observons que le génocide n'est arrêté que par la victoire militaire du Front patriotique rwandais au début du mois de juillet et par la fuite au Zaïre des forces armées rwandaises défaites. Et on ne compte dans le pays que 300 000 survivants tutsis, on dénombre 800 000 victimes, davantage peut-être. Donc 800 000 est probablement une estimation basse, 800 000 victimes sur un pays de 6 millions d'habitants à l'origine. Ce que je disais sur la radicalité et la vitesse de diffusion du massacre, vous voyez, se lit dans ce simple chiffre, 800 000 victimes en 3 mois seulement. Alors, les critiques et, disons-le, les accusations donc portées de longue date à la politique française portent, je crois, sur 7 points. 7 points qui sont eux-mêmes déclinables en une masse de questions principales et subsidiaires. Donc je vous passe forcément les détails. Je n'ai pas le temps de le faire, ça exigerait en fait non pas une conférence, mais plusieurs. elle porte ses critiques ou ses accusations sur le soutien de la France au régime du président Habyarimana après le début de l'offensive du FPR d'octobre 1990. Un soutien qui a pris la forme d'une aide très appuyée, hein, tellement appuyée qu'au début de l'année 93, donc, un officier supérieur français, le colonel Tauzin, prend littéralement la main, la maîtrise de l'état-major de l'armée rwandaise avec une cinquantaine d'officiers du 1er RPIMA. Ceci n'est pas une accusation en l'air, puisque lui-même l'a raconté longuement dans un livre personnel. Deuxième point, les critiques, accusations portent sur l'aveuglement du pouvoir français face aux massacres récurrents commis contre les Tutsis entre octobre 1990 et avril 1994 et sur l'absence de prise en compte des renseignements transmis par plusieurs canaux et avertissant de la préparation au sein des structures du pouvoir rwandais de massacres de grande ampleur susceptibles de déboucher sur un génocide. Troisièmement, les critiques portent sur l'aide directe apportée sur place les 8 et 9 avril 1994 par l'ambassade de France à la formation du gouvernement intérimaire Hutu Power qui a orchestré le génocide, gouvernement qui a été justement formé dans les locaux de l'ambassade de France, ce qui est évidemment d'une extrême gravité. Quatrième point, elle porte ses critiques sur la réception à Paris le 27 avril 1994 du ministre des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire rwandais, alors qu'il est permis d'estimer à cette date que plusieurs centaines de milliers de victimes sont déjà tombées. Elle porte, cinquième point, sur l'ambiguïté fondamentale de l'opération turquoise, dont tout indique qu'elle visait à la fois initialement et parallèlement une forme de co-belligérance avec le gouvernement intérimaire responsable du génocide, une forme de co-belligérance destinée à bloquer la progression à cette date très rapide du FPR, alors que l'opération turquoise est présentée officiellement comme purement humanitaire dès l'origine. Humanitaire, l'opération turquoise l'a été, plus exactement, elle l'est devenue. La question qu'il faut poser, c'est ce passage vers une opération humanitaire, ce qu'elle n'était pas ou pas entièrement à l'origine. Le glissement s'est fait probablement entre le 30 juin et le 1er juillet 1994. Sixième point, elle porte sur l'absence de toute arrestation des responsables des massacres lors de leur fuite massive vers le Zaïre, alors que la frontière était entièrement tenue par les forces françaises de Turquoise. Septièmement, elle porte enfin ses critiques sur le réarmement des forces génocidaires dans les camps zaïrois, alors même que s'était reconstituée en leur sein une structure politico-militaire génocidaire à destinée à prendre une revanche contre le pouvoir qui venait de s'installer donc à Kigali. Voilà donc cette question principale. Comme vous le sentez, elles sont tout de même assez lourdes. Mais aussi importantes soient-elles, ce sont des questions que l'on doit poser, me semble-t-il, à la politique française menée au Rwanda entre 1990 et 1995, et tout particulièrement, bien sûr, en 1994. Il me semble que ce dossier pourrait être assez aisément refermé si les conditions, archivistiques en particulier, étaient réunies. Elles ne le sont pas, puisque la mandataire du président François Mitterrand, Dominique Bertinotti, donc, a la main sur les archives donc, de l'Élysée, les archives donc, gouvernementales également, jusqu'en 2020-2021. Le processus de déclassification est maintenant achevé, mais déclassification ne veut pas dire communicabilité. Et actuellement, donc, ces archives ont été déclassifiées selon différents processus dont je vous passe le détail, mais elles ne sont pas communicables, ou plus exactement, elles ne sont communicables que si Madame Dominique Bertinotti, l'Institut François Mitterrand, décide ou autorise leur communication. Elle ne le fait qu'au compte-goutte pour des dossiers d'importance très secondaire. Par ailleurs, les archives du service historique de la Défense sont actuellement fermées. Les archives de la DGSE, extrêmement importantes, car tout semble indiquer que la DGSE a vu juste dans les errements du pouvoir français au Rwanda, ces archives de la DGSE sont entièrement à la main de la DGSE elle-même et on ne voit pas actuellement comment elles pourraient être consultables par quelque chercheur que ce soit. Alors, vous voyez, ce dossier, en même temps, pour un chercheur de sciences sociales, je disais, il est au fond, c'est un dossier extrêmement lourd, mais qui pourrait être aisément refermé. Je veux dire par là que une commission d'historiens après aiguisée, avec quelques experts sur les questions administratives, sur les questions militaires, etc., pourrait, probablement, si toutes les archives étaient ouvertes, en une année ou deux de travail, s'il disposait de quelques moyens, régler cette question et aboutir à un récit fiable de ce qui s'est passé et de ce qui s'est joué entre la France et le Rwanda dans ces années décisives. En revanche, le dossier du génocide des Tutsis rwandais, perpétré entre avril et juillet 1994, ne sera jamais refermé. Et c'est pour cette raison. Et c'est pour cette raison qu'en tant que chercheur en sciences sociales, c'est à lui que je m'intéresse de manière prioritaire, plutôt qu'à la politique française, qui est une question parmi d'autres, et qui sont très importantes sans doute, mais qui ne me paraît pas à terme la question prioritaire. Et dans ce génocide des Tutsis rwandais, deux questions me paraissent particulièrement difficiles, tellement résistantes, entre guillemets, qu'elles sont peut-être hors de portée des sciences sociales telles qu'elles existent aujourd'hui, telles qu'elles sont à notre disposition, si je puis dire, aujourd'hui. C'est d'une part la question de la violence des voisins et d'autre part le massacre dans les lieux sacrés et la question du rôle du religieux dans l'accomplissement du génocide. Sur deux points que je voudrais poursuivre mon propos en précisant que très volontairement, je ne propose aucune image dans cette conférence, parce que ce que j'ai à dire sera suffisamment dur comme cela pour que je ne la transforme pas, disons, en une sorte de train fantôme. La violence des voisins, tout d'abord. La violence des voisins au Rwanda, c'est une violence extrême à l'encontre des victimes, violence massive, en ce qui concerne en termes de nombre de tués, en termes de nombre de tueurs. Rien n'est plus difficile que d'en reconnaître la réalité tout entière, d'en mesurer aussi toutes les conséquences. Mais sans les voisins, la terrible efficacité du génocide n'eût pas été la même. Alors certes, comme pour tout génocide, celui des Tutsis rwandais a mobilisé massivement tous les moyens d'un État, les préfets et les bourgmestres, du côté des structures administratives, l'armée, la gendarmerie, la police, les miliciens, du côté de tous ceux qui portaient des armes. Et c'est ce que je suis conduit dans les différents procès de génocidaires rwandais qui ont été conduits à Paris depuis 2014, à expliquer au tribunal et aux jurés en particulier, pour qu'ils comprennent bien qu'on se situe précisément dans le cadre d'un État génocidaire, dont ceux qui ont servi cet État ont évidemment des comptes à rendre. Mais à lui seul, le déploiement de ces moyens étatiques, aussi intense est-il été en 1994, n'aurait pas suffi. Pour que les deux tiers des victimes trouvent la mort dès les cinq premières semaines du génocide, il a fallu que les voisins paysans, le plus souvent, évidemment au Rwanda, prennent toute leur part du repérage, toute leur part de l'érection des milliers de barrières placées sur les moindres chemins, toute leur part de la poursuite, une véritable chasse aux Tutsis, toute leur part du meurtre, toute leur part du massacre du bétail, de la destruction des maisons, du pillage des biens et enfin toute leur part de la dissimulation des cadavres. Je m'appuie ici, je vous renvoie plus exactement à un livre exceptionnel sur cette question, celui d'Hélène Dumas, ici présente d'ailleurs, Le génocide au village, paru au Seuil en 2014. Plus tard, les juridictions Gacaca ont condamné au Rwanda 800 000 participants aux tueries, des participants appartenant aux deux premières catégories, celle des organisateurs et celle des exécutants, soit un cinquième environ de la population adulte de 1994. Ces tueurs étaient des hommes pour l'essentiel, mais pas seulement. Parmi eux, il y avait des femmes, il y avait des enfants qui ont participé au repérage, à la poursuite et au meurtre de leurs voisins. Ses voisins, il les connaissait bien. Souvent, il les connaissait intimement. À eux, les attachaient des liens très nombreux. Parfois, ils pouvaient être des amis de longue date. Et pourtant, ils les ont tués. Et cela, d'un point de vue de sciences sociales, et vous le sentez bien, pas seulement d'un point de vue de sciences sociales, cela, il faut le comprendre, tout en sachant qu'on ne peut pas espérer complètement y parvenir. Au Rwanda, il me semble qu'on pourrait dire au moins que, le corps de l'autre a pu devenir le lieu de pratiques extrêmes, très diverses, mais qui toutes se sont voulues clarificatrices, pour reprendre ici la terminologie de l'anthropologue américain d'origine indienne, Arjun Appadurai. À travers ce qu'on a fait à l'autre, on lui a prouvé et on s'est prouvé à soi-même qu'il était décidément un ennemi à éradiquer. Et la cruauté, si présente partout dans le meurtre des voisins en 1994, et j'emprunte ici beaucoup à Véronique Naumgrapp, donc anthropologue ici présente également, la cruauté n'a pas été une sorte d'à côté dans la question du génocide, dans la perpétration du génocide. Cette violence devenue sa propre fin, cette cruauté donc en constitue le cœur. Il s'est agi de produire de la douleur, le plus de douleur possible, avec une véritable, à travers une véritable vivisection des corps. Douleur du corps, bien sûr, douleur corporelle, bien sûr, somatique, mais aussi douleur psychique tout autant, cette douleur psychique que vivent encore les survivants. Et cette douleur-là, à la fois physique et psychique, est aussi symbolique. La cruauté est profanatrice. Elle veut atteindre, et elle atteint effectivement avec une extrême efficacité. Je songe au viol des femmes, je songe au basculement des corps dans les latrines. Elle veut atteindre, et elle atteint effectivement, le sacré de la victime. Au-delà, elle vise donc au-delà de la victime elle-même. Elle vise sa famille, elle vise ses proches, elle vise la communauté tout entière d'appartenance. Et elle comporte en outre un élément essentiel qu'il ne faudrait pas négliger, mais qui est ensuite soigneusement dissimulé, la jouissance du bourreau. Car il ne sert à rien de refuser de voir que les voisins ont pris plaisir au meurtre de leurs voisins. Les repas et les libations du soir qui réunissaient les tueurs après leur journée de chasse, après leur journée de battue, trahissent, je crois, et de manière très éloquente, cette omniprésence ignoble de la fête qui accompagne le meurtre de masse. De même, les émissions de la radio des Mille Collines, cette radio qui a appelé au meurtre, qui a dénoncé, qui a dirigé dans une certaine mesure les tueurs, ces émissions sont marquées au coin d'une grande gaieté. En les massacrant, les voisins ont en quelque sorte parlé une dernière fois à leurs voisins, à leurs victimes, car toute cruauté est un langage, et sa logique profonde procède d'une recherche, celle d'une atteinte systématique à la filiation. Là aussi, je suis bien des remarques faites pour l'ex-Yougoslavie par Véronique Naumgrapp. Rendre un visage méconnaissable, mettre le dedans d'un corps au dehors, ou vice-versa, agencer les morceaux d'un corps de manière biologiquement impossible, l'animaliser, le chosifier par le déploiement de la magie excrémentielle, dont parlait la grande anthropologue Mary Douglas, ce sont autant de manières d'atteindre et de trancher la filiation, cet élément invariant de définition de notre propre humanité. Et par ce processus de désidentification, la notion même d'ascendance et de descendance se voit détruite à son tour. D'où ce qui s'est si souvent produit entre voisins au Rwanda. On relève ainsi la fréquence des atteintes à l'appareil reproducteur, le massacre des enfants devant les parents, le massacre des parents devant leurs enfants, le viol systématique des femmes, de préférence devant leurs proches, et parfois au moyen de leurs proches. Ce qui est dit à l'autre dans les pratiques de cruauté, ce qui est dit aux morts, à sa famille, à sa communauté d'appartenance, c'est qu'il n'est rien, littéralement. Et je reste absolument frappé aujourd'hui par cette phrase d'un rescapé rencontré près de la grande église de Kibero en 2014, où un massacre immense s'est produit au mois d'avril. cette phrase donc qui tient en quatre mots, je ne suis rien. Et si les pratiques de cruauté se sont déployées avec tant d'intensité entre les voisins, c'est précisément parce que c'était les voisins. La cruauté, on le sait depuis l'ex-Yougoslavie, mais on le sait aussi depuis la guerre du Liban, pour prendre des exemples relativement récents, la cruauté est consubstantielle à la violence de voisine, à la violence de voisinage. Elle seule peut créer à ce point la différence qui manque et qu'il faut donc constituer et approfondir par les pratiques mêmes. L'autre devient à ce moment-là tout à fait un autre au vu de ce qu'on lui fait, au vu de ce qu'on le fait devenir devant soi. Et alors sur cette stratégie somatique, Freud a dit peut-être très tôt l'essentiel dans un texte un peu énigmatique et très court malheureusement, un court texte de 1917, Le tabou de la virginité, qui a été publié pour la première fois dans la Revue française de psychanalyse en 1933. Je le cite. Ce sont justement de petites particularités à côté d'une ressemblance générale qui motivent les sentiments d'hostilité. Il serait tentant d'adopter cette idée et de faire dériver de ce narcissisme les petites différences, la haine qui, dans tous les rapports humains, l'emporte comme nous pouvons le constater sur les sentiments de fraternité et sur le précepte de l'amour universel. Fin de citation. Donc, citation très brève, vous le voyez, assez énigmatique, mais qui nous met quand même sur une piste que je crois capitale. La violence des voisins, dans le cas du Rwanda, mais dans d'autres cas, donc assez récents de notre histoire du XXe siècle, du second XXe siècle, pourrait ne pas puiser ses racines dans la dissemblance, dans la distance, dans l'altérité, comme nous sommes habitués à le penser, et nous avons bien des situations, des configurations historiques qui nous conduisent à le penser, mais tout au contraire, dans la ressemblance, dans la proximité, dans l'identité. Et dès lors, je crois qu'au Rwanda, il ne sert à rien de se demander, comme j'entends souvent, mais comment un voisin, comment tel voisin, si proche, avec lequel... voilà, qu'on connaissait depuis si longtemps, les enfants des deux maisons jouant ensemble, etc. Comment tel voisin a pu faire cela, a pu massacrer ma famille, mes parents, mes enfants, etc. Non, c'est précisément parce qu'il était si proche qu'il a fait cela. C'est dans la proximité extrême, que résiderait au fond la réponse à l'énigme de la violence de voisinage de 1994. Non pas dans la différence mineure dont parlait Freud, mais peut-être ici dans la différence inexistante. Le leader druze Walid Jumblatt, lors de la guerre du Liban, qui reconnaissait un rayon en termes de... qui a été un des grands entrepreneurs de violence, mais qui également n'a pas manqué de réflexivité sur cette violence, l'a dit en 1986 d'une manière extraordinairement frappante dans le journal Al-Safir, c'était le 14 avril 1986, pendant la guerre même. Je cite, « L'ennemi est à l'intérieur de chacun de nous. » Fin de citation. Et dès lors, la question qui se pose à nous pourrait être la suivante. Le génocide des Tutsis rwandais exprime-t-il plus que lui-même? Dans quelle configuration nous trouvons-nous aujourd'hui dans notre société à haut niveau de pacification, hein, comme pour citer ici une expression de Norbert Elias, une expression d'autant plus curieuse, société à haut niveau de pacification, qu'elle est énoncée juste avant l'éclatement du second conflit mondial. Dans quelle configuration pourrions-nous nous trouver un jour? Sommes-nous plus près que nous le pensons d'un moment où la violence des voisins pourrait faire irruption dans notre quotidien? Évidemment, je n'ai pas plus de réponse que vous à cette question. Je crois néanmoins qu'elle est légitime. La leçon de violence des mois rwandais d'avril-juillet 1994 mérite, je trouve, d'être méditée. À mes yeux, elle constitue un avertissement. J'en viens au deuxième, et ce sera le dernier point, la France, les voisins, et maintenant le massacre, donc dans les lieux sacrés. Au Rwanda, les églises ont été le deuxième lieu de massacre après ce qu'on appelle les collines, c'est-à-dire finalement les massacres en plein air. Les collines ne sont pas vraiment un lieu. Mais si on parle de lieu, les églises ont joué un rôle central. On ne compte pas le nombre d'églises à l'intérieur desquelles et dans le périmètre desquelles des milliers de victimes ont été massacrées. Les églises ont compté parmi les épicentres de la violence meurtrière. Elles avaient toujours protégé, ces lieux avaient toujours protégé les Tutsis lors des massacres qui s'étaient déployés au Rwanda depuis 1959. Ce fut l'inverse en 1994. Elles ont constitué des pièges mortels. À Nyamata, donc au lieu de la commémoration non loin de Kigali, plus d'une dizaine de milliers de personnes sont mortes dans l'église et à ses abords immédiats le 11 avril. Le site regroupe à présent les corps de 20 000 victimes tombées sur place et dans les environs immédiats. À Kiwero, donc, la tuerie a été d'une violence particulière. 15 000 personnes auraient été massacrées sur place le 14 avril. Les prêtres du lieu s'étant séparés entre victimes et victimes certaines et bourreaux possibles. Et comme ailleurs, le bâtiment a été attaqué de l'extérieur. Les murs de briques ont été percés en de nombreux endroits. Des grenades ont été ensuite jetées dans la foule massée à l'intérieur. Et le massacre a continué ensuite à la machette, à la massue, à l'intérieur même du bâtiment. Notons un point sur lequel je reviendrai un instant. Les mains à Kibero, les mains de la statue de la Vierge ont été coupées elles aussi. C'est à Nyangé, à l'est de la préfecture de Kibuye, qui elle en revanche se trouve à l'ouest du Rwanda, à Nyangé, un cas étudié par un des meilleurs étudiants de master de cette école, Timothée Brunet, ici présent, que des questions encore plus lourdes se posent sur la dimension religieuse du massacre. Dès le 10 avril, les victimes se sont réfugiées dans cette grande église, dans cette église de grande taille, qui est attaquée une première fois 5 jours plus tard, le 15, sans succès, car les réfugiés qui se trouvent à l'intérieur se sont barricadés, repoussent efficacement leurs agresseurs à coups de pierres, nuées de pierres qui sont jetées sur les attaquants. Et donc, devant cette difficulté tactique pour les tueurs, le lendemain, le 16 avril, s'impose l'idée d'utiliser un engin de chantier qui se trouve sur place, un bulldozer, parce que les travaux sont effectués sur la route voisine. Et c'est le vicaire de la paroisse, le père Athanase Seromba, qui a levé les scrupules du chauffeur de ce véhicule en lui confirmant l'ordre donné par le bourgmestre de détruire le bâtiment. C'est le prêtre qui lève les scrupules, notamment religieux, du conducteur. Et c'est grâce à ce bulldozer que l'église s'effondre sur les 3000 personnes réfugiées à l'intérieur. Les survivants sont tués dans la cour du bâtiment. Dans ce pays profondément chrétien, massivement catholique en 1994, les lieux sacrés l'étaient-ils encore pour les bourreaux? Leurs actes révèlent-ils une intention quelconque sur le plan religieux? Pour ma part, en tant qu'historien, je crois que ce qui s'est passé dans la sphère du religieux doit s'expliquer par le religieux. Le massacre dans un lieu consacré et visant en outre les objets sacrés qui y sont contenus ne peut pas ne pas avoir un sens principalement ou également religieux, ne fût-ce que par inversion, puisque la profanation du sacré est nécessairement également sacrale. Comme les massacreurs étudiés par le grand historien des troubles de religion du XVIe siècle, Denis Crouzet, mais dans un tout autre contexte, bien sûr, et dans un contexte interreligieux, je vais y revenir dans un instant, comme les massacreurs de Denis Crouzet, les tueurs de 1994, les tueurs dans les églises, les tueurs étaient des croyants. Et rien ne permet de dire qu'ils ne le sont pas restés pendant le meurtre de masse. Mais ici, bien sûr, une difficulté immense pour les sciences sociales se présente, qui justifie de parler d'un cas absolument unique, d'une sorte d'apax historique. La violence n'a pas été, comme je le disais à l'instant, interreligieuse, car là, sur la violence interreligieuse, la littérature des sciences sociales est inépuisable. La violence a été intra-religieuse. Les catholiques ont massacré d'autres catholiques, souvent leurs coparoissiens, dans leur paroisse, dans leurs églises, avec des prêtres qui se sont répartis des deux côtés entre victimes et bourreaux. Et donc, le génocide, si je ne me trompe pas, le génocide de 1994 est unique sur ce point comme sur d'autres et privé, et en tant que chercheur, nous sommes privés de toute comparaison possible. En tout état de cause, entre le 7 et le 16 avril à Nyangé, donc entre le début du génocide et l'effondrement de l'église grâce au bulldozer donc lancé contre le bâtiment, entre le 7 et le 16 avril, c'est toujours en tant que prêtre que le père Athanase Seromba a agi. C'est comme prêtre qu'il a donné l'ordre au chauffeur du bulldozer de détruire le bâtiment, en arguant que des démons occupaient la maison de Dieu, avant d'ajouter, semble-t-il, d'après les témoignages que l'on peut avoir, « Détruisez l'église, les Hutus sont assez nombreux pour en construire une autre. » Et plus tard, au TPIR, où il sera lourdement condamné, c'est en habit ecclésiastique qu'il tiendra à comparaître, ce qui sera d'ailleurs retenu contre lui comme une circonstance aggravante. Quant aux tueurs de Nyangé, très nombreux, semble-t-il, ils étaient là par milliers, ils semblent bien avoir agi en croyant, eux aussi. Ils se sont ainsi regroupés autour d'une statue de la Vierge juste avant la première attaque, celle du 15 avril. Ils ne sont pas les seuls à avoir agi ainsi. Ailleurs, d'autres tueurs ont participé à des messes avant la perpétration de leurs crimes, ou même se sont arrêtés devant l'autel pour prier en pleine séquence meurtrière. Alors cette présence du religieux n'a pas échappé aux chercheurs confrontés à l'évidence brutale, l'évidence intolérable d'églises devenues ainsi lieu de massacre de masse. Mais il me semble que si les sciences sociales disposent d'infiniment d'outils pour étudier les violences interreligieuses, elles n'en disposent d'aucun pour aborder des massacres intra-religieux comme ceux qui se sont produits en 1994. Mieux vaut peut-être reconnaître que nous n'avons pas d'outils pour comprendre comment des croyants, en l'occurrence des catholiques essentiellement, et se sont mués en assassins de leurs co-religionnaires et pour une partie d'entre eux, en assassins de leurs coparoissiens et de leurs propres prêtres. Nous avons moins d'outils encore pour comprendre comment des prêtres, des religieuses aussi, ont pu eux-mêmes se compter parmi les tueurs et parfois parmi les plus actifs d'entre eux. A minima, il me semble en tout cas possible de dire, avec le sociologue Julien Seroussi, qui a joué autrefois, il y a quelques années, un grand rôle dans le pôle, auprès du tribunal de grande instance de Paris, le pôle crime contre l'humanité et génocide, pour qui le racisme, dit-il, s'est emparé de l'expérience religieuse pour s'accomplir comme crime. Et il ajoute que les pratiques religieuses ont entretenu l'énergie meurtrière des tueurs. Et donc, il y a aussi stupéfiant que cela peut-être puisse nous apparaître, le génocide des Tutsis a été partiellement, je le cite là encore, partiellement commis religieusement. Je voudrais conclure d'un mot pour laisser la place un petit peu à une rapide discussion, mais le temps qui est imparti aujourd'hui à l'heure du déjeuner est relativement limité. Il est évidemment très difficile de conclure. Vous comprenez bien que c'est vraiment le type de sujet, ou en tout cas les questions que j'ai essayé de soulever sont celles que l'on ne peut pas conclure. Alors, parce que les questions que pose le génocide des Tutsis rwandais nous débordent de toutes parts, nous débordent évidemment intellectuellement, émotionnellement, politiquement, peut-être, mais elles débordent aussi d'un point de vue de sciences sociales, elles débordent ce que nous croyons jusqu'ici savoir, ce que nous croyons jusqu'ici comprendre, analyser, interpréter en un tel domaine. Et Dieu sait pourtant que la littérature sur le massacre est abondante, riche, pertinente souvent. Peut-être est-ce un problème d'insuffisance des outils dont disposent les sciences sociales actuellement, ou peut-être les questions sont-elles mal posées. À ce moment-là, c'est le chercheur lui-même qui est en cause. Pour ma part, sur ce sujet terrible, je suis bien conscient que les sciences sociales ne font briller qu'une très mince flamme, mais en l'occurrence, c'est tout ce que nous avons, et pour ma part, c'est tout ce que j'ai. Je vous remercie.
Juste sur un point, et merci pour cet exposé de toute façon important, sur l'opération turquoise, voilà, l'armée française encadre environ, j'ai vu les chiffres de 200 000, 300 000, Hutus et leurs familles et leurs armes, pour aller dans différentes régions, y compris la région du Kivu, à côté. Et là, à partir de ce moment-là, je trouve qu'il y a une opacité historique. Commence. Alors, on sait qu'un ferment de guerre, puisque l'armée rwandaise va essayer de les faire revenir, beaucoup reviennent. Que se passe-t-il? Il y a les mines de coltan, il y a toute une série de... Il y a une région abandonnée par son propre État, on le sait, des collines, etc. Et là, au bout de quelques années, on a à la fois des informations tragiques sur des viols systématiques commis à un point extrême, premièrement. Et deuxièmement, on a des chiffres de mortalité, alors stupéfiants. Il y a des travaux démographiques qui disent 300 000, 400 000 dans cette région très désertique, avec habitats dispersés, exactement comme au Rwanda, où sont des collines qui montent jusqu'à 2000 mètres, qui sont avec et l'habitat dispersé, c'est quelque chose de très particulier. Donc, et en même temps, des chiffres de 5 millions, 6 millions de morts. Et entendant, voyant ces chiffres circuler dans cette région donc, du Kivu, mais où en sommes-nous? Qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Y aurait-il 5 millions, 1 million, sans doute 1 million 200 morts au Rwanda, en fait, plus que 800 000, sans doute. Et alors, dans la région du côté, 5 millions. Et alors, où sont les charniers, les survivants, les récits? Qu'est-ce que c'est que cette manipulation de chiffres pour cette région, à la suite donc d'un choix politique, de politique étrangère des Français, avec ce double jeu, cette double piste de l'opération turquoise qui a continué, qui n'a pas viré à l'humanitaire. Il y a le dossier Bicécéro, où il y a eu non-lieu récemment, mais qui a viré à sauver les génocidaires hutus quand même, et en mettant dans un ferment parmi d'autres de continuation de crimes contre l'humanité, dont ces viols atroces, dans cette région qui était déjà évidemment en dehors de toute structure collective, en dehors d'un État, d'un tiers que serait l'État. J'aurais mille choses à dire, mais je te remercie. Mais ça, c'est vraiment une vraie question.
Oui, c'est la question que tu poses, évidemment, fait allusion, effectivement, à la l'onde de violence, en quelque sorte, qui dans l'Est du Zaïre, au Kivu en particulier, a suivi le génocide. Et effectivement, il était bien évident que dire que, au fond, l'onde de choc du génocide aurait provoqué ensuite sur place la mort de 5 ou 6 millions de personnes. On voit bien de quoi ces chiffres sont évidemment insensés. Hein, insensés au Rwanda, dans un territoire plus vaste que le Kivu. Un million, si effectivement tu as raison, c'est-à-dire que le chiffre de 800 000 morts est une estimation basse et que le chiffre véritable est beaucoup plus près d'un million, voire davantage, le Rwanda en 1994 est un charnier à ciel ouvert. Les corps ne peuvent pas échapper à la vue des observateurs, ces corps qu'on le retrouve encore aujourd'hui, puisque tous n'ont pas été recouvrés. Donc c'est 5 à 6 millions de... Ce chiffre qui était sorti de 5 à 6 millions de morts est évidemment un chiffre qui permet de créer une équivalence avec l'extermination des Juifs d'Europe, c'est évidemment très... c'est tout à fait évident, et au fond de déployer la fameuse théorie du double génocide, qui est la manière dont le génocide des Tutsis rwandais, c'est la manière dont le négationnisme, qui toujours accompagne les phénomènes génocidaires, la manière dont le négationnisme s'accroche au génocide des Tutsis rwandais. Non pas en disant il n'y a pas eu de génocide, mais il y en a eu deux. Et à la limite, le second, au Kivu, dans lequel l'armée rwandaise, l'armée du FPR, de l'APR, donc a joué un rôle capital, notamment lors de son intervention en 1996, eh bien, au fond, le deuxième génocide aura une gravité supérieure, au premier, et ainsi, ce qui permet d'annuler, évidemment, le génocide originel. Voilà, on est ici dans les questions à la fois politiques et mémorielles qui permettent... ce trouble dont nous ne sommes pas sortis et dont nous ne sortirons pas sans doute avant un certain temps.
Je vous en prie. Je vous remercie pour cette conférence. Je suis très intriguée par l'analyse que vous avez faite sur les violences des voisins et notamment dans leurs sources qui ne résideraient non pas dans l'altérité mais dans l'identité. Et je voulais savoir si vous aviez déjà tiré des conséquences de cette observation en termes de justice, notamment dans la pratique de la justice traditionnelle, dans la reconstruction du vivre ensemble. Est-ce que c'est quelque chose, selon vous, qu'il va falloir prendre, enfin, qu'il faut prendre en considération, cette identité plutôt que l'altérité? Si oui, comment? Enfin, est-ce que vous avez déjà quelques pistes sur la question, ou est-ce que c'est justement une réflexion qui est amenée à présent à partir du constat que vous avez présenté aujourd'hui? Je vous remercie.
Je ne suis pas surpris que cette idée de la proximité plutôt que de l'altérité vous trouble. Hein, elle trouble, je crois, sans doute aux gens qui m'ont écouté aujourd'hui. Elle me trouble moi-même extrêmement. Elle ne peut pas ne pas nous troubler. Nous sommes plutôt habitués à penser ces questions de racisme, de xénophobie, de rejet de l'autre, à partir au fond d'une plutôt de la... de la différence visible, hein, la différence de couleur de peau, la différence de langue, la différence religieuse, d'autres différences plus mineures encore. Dès lors qu'il y a indistinction complète ici, en l'occurrence entre victime et bourreau, un trouble considérable s'installe. Et un trouble évidemment très, très douloureux pour nous. Parce que, vous voyez, quand la différence est perçue comme importante, grande, provocante, etc., donc le massacre peut en advenir. Et quand il n'y a pas de différence du tout, puisque la distinction entre tout et tout-ci, sans une carte d'identité ou sans l'interconnaissance du voisinage, eh bien, l'identification n'était pas possible. Eh bien, quand il n'y a aucune différence visible, le massacre peut advenir également. Vous voyez bien que ceci nous questionne d'une manière absolument terrible, hein, et nous sort complètement d'une certaine forme de confort, une certaine forme d'effort sur nous-mêmes éventuellement. Alors, vous dites, est-ce qu'il y a des pistes à trouver, etc. Quelles conséquences je ne suis pas du tout spécialiste de justice transitionnelle, de ce genre de choses, pour lequel j'ai même beaucoup de méfiance, de réticence. Hein. C'est le moment peut-être d'ici d'évoquer la mémoire de notre collègue José Cagabo, hein, assez récemment disparu, lui-même Tutsi, lui-même partie de la famille a été massacrée au Rwanda, qui a publié un très bel article très tôt, hein, dès son retour au Rwanda après le génocide. Et c'est peut-être le moment d'évoquer cette son exaspération, hein, dans cette injonction en particulier occidentale à la réconciliation, justement. Hein, réconciliez-vous maintenant. Et comment? Et pourquoi? Et j'ai été très frappé au Rwanda par, finalement, je pense que les chercheurs beaucoup plus aigus que moi qui sont ici et qui travaillent sur ce pays, dont j'ai cité les noms déjà, ont des tas de témoignages sur ce plan. On note ici ou là, effectivement, des phénomènes, sinon de réconciliation, du moins de cohabitation, qui sont reconstitués, plus ou moins forcés, d'ailleurs. Quel choix ont les victimes, si elles veulent survivre? Car la violence continue à bas bruit, au Rwanda, contre elles. Et puis, d'autres rescapés, dont la colère continue de se manifester, une colère parfaitement compréhensible, et qui n'ont... et qui ne voit pas pourquoi elle répondrait positivement à cette injonction réconciliatrice. Voilà. Je crois que, après que la communauté internationale, c'est-à-dire en grande partie, si je puis dire, occidentale, puisque seules les forces occidentales pouvaient empêcher ce génocide, qui est le seul génocide du XXe siècle que l'on pouvait effectivement empêcher, le seul. On n'aurait pas pu empêcher, bien sûr, des massacres de grande ampleur, mais on pouvait empêcher... La massivité du massacre et le sentiment d'impunité qu'ont eu les tueurs pendant 3 mois. Je trouve assez déplaisant, pour ne pas dire plus, vous voyez, qu'après avoir été aussi incapable d'empêcher un massacre que l'on pouvait empêcher, on ordonne maintenant aux rescapés de se réconcilier. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est évidemment très confortable pour nous, beaucoup moins, à mon avis, pour les rescapés en question.
Merci beaucoup, Stéphane. Sur la question de la, La cruauté intra-religieuse et de la criminalité intra-religieuse, tu dis qu'on n'a pas de cas de comparaison et que c'est une difficulté, un mur auquel se heurte l'analyse. Alors, je n'ai pas de cas ou d'études particulières à mentionner, mais peut-être des hypothèses de comparaison. On voit quand même depuis quelques années des cas alors, de criminalité intra-religieuse avec toutes les affaires de pédophilie au sein de l'Église catholique. Il s'agit de criminalité, il s'agit d'affaires graves qui concernent toute une Église, non pas simplement dans un concentré territorial, mais sur différents continents. Et peut-être un questionnement de sciences sociales serré sur ce qu'il se joue sur cette criminalité, le silence qui l'entoure, son institutionnalisation, fournirait peut-être des clés de lecture, d'analyse. Et puis, d'autres cas qui sont sous nos yeux actuellement, de criminalité et de cruauté extrême intra-religieuse, c'est ce qui se joue au Moyen-Orient, en Syrie, où ce n'est pas simplement entre communautés distinctes au sein de l'islam, mais des musulmans qui en massacrent d'autres, avec des arguments, des arguties puisées dans la théologie de l'apostasie, ce qu'on appelle le takfir en islam, où là, il y a une annulation de l'appartenance communautaire. Et tu parlais de démonisation des Tutsis, donc il y aurait là peut-être clé à comparaison. Et puis peut-être, je pensais, pour ce qui est de la théologie chrétienne, aux investigations récentes de Peter Bourne sur le rapport du christianisme à l'argent à travers la question des riches et des pauvres et du fait qu'il y a cette sorte de sélectivité extrême où il est plus difficile à un riche d'entrer au paradis qu'un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Est-ce que ce type d'argument religieux où on voit que l'entrée dans l'au-delà passe par une forme de sélection extrême, a pu être mobilisée dans les représentations religieuses des génocidaires.
Bon, les questions que tu poses sont évidemment extraordinairement complexes. Il faudrait beaucoup de temps et sans doute des savoirs religieux, voire théologiques, qui ne sont pas les miens, hein, pour pouvoir te répondre complètement. Je propose d'écarter, d'abord, bien sûr, toutes les à partir du moment où on est dans une impasse, toutes les hypothèses peuvent être, on peut manier toutes les hypothèses comparatives à titre heuristique, hein, tu as évidemment parfaitement raison. Néanmoins, on se situe ici dans un cadre massivement chrétien, et je propose qu'on s'y tienne. Je propose qu'on s'y tienne, même si évidemment la comparaison avec les simples pourrait être utile, mais je pense qu'il faut se tenir à la logique propre. De la théologie, d'une théologie chrétienne, et pour pouvoir s'en sortir. La crise que vit l'Église catholique aujourd'hui, avec la crise pédophile, etc., ne me paraît pas une bonne voie, parce qu'elle nous met sur le voie de la perversion individuelle. Or, justement, s'il y a une chose qui me paraît une impasse, c'est de penser que les tueurs, et les tueurs catholiques, et les prêtres devenus des tueurs, s'inscrivent dans un tableau clinique, si tu veux, de perversion. Je pense qu'au contraire, on est avec des tueurs ordinaires, des paroissiens ordinaires et des prêtres ordinaires, éventuellement des bons prêtres d'ailleurs, quand ils n'étaient pas, avant qu'ils deviennent des tueurs. Et donc je pense pas qu'il faille retenir cette explication. En revanche, ce que tu dis sur le problème de l'inégalité me paraît peut-être une piste plus féconde. J'en avais beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé avec une grande anthropologue spécialiste du religieux, Elisabeth Clavery, grande spécialiste des liens entre religion et violence, son grand livre, Les guerres de la Vierge, hein, pour l'ex-Yougoslavie, qui, au fond, dans quelle mesure, au fond, là, cette idée aurait pu s'ancrer, hein, chez les Hutus, un certain nombre d'entre eux, que finalement, Dieu n'avait pas distribué ses grâces de manière équivalente, historiquement, entre les uns et les autres. Et qu'il y a un rattrapage, en quelque sorte, par le meurtre, hein, pouvait devenir légitime. Et il y a là, peut-être, effectivement, hein, une explication importante de cette séparation, en quelque sorte, du Dieu unique, Dieu des Hutus, Dieu des Tutsis, votre Dieu est mort, hein, comme la phrase a pu être prononcée, hein, dans les massacres de différentes sources. Hein, et si votre Dieu est mort, c'est parce que finalement, le Dieu unique s'est montré inéquitable historiquement envers les Hutus, et qu'il faut donc, hein, et que le massacre est là peut-être pour rétablir, hein, un Dieu unique équitable. Voilà, c'est peut-être une direction possible, mais sur quelle base la fonder ?
Merci beaucoup, Stéphane. Notre prochaine conférence CAES se tiendra le mercredi 12 décembre, et c'est Jacqueline Carrois, dont les travaux récents et plus anciens sur les rêves sont tout à fait pertinents et originaux, qui nous parlera des rêves et des rêveurs sous la Grande Guerre.